Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui découvre tous les univers différents du comics. Cette semaine, on s'intéresse à Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch. La relance, ou pas, on va vous dire, de l'univers Ultimate. Pour ce faire, je vous présente l'équipe la plus ultimate de Comics Discovery, en commençant par Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie?
J'ai pas trop envie d'être dans l'univers Ultimate, en fait j'aime pas l'univers Ultimate, mais sinon ça va.
Ah, c'est vrai que t'as dit que Spider-Man Ultimate était un petit con.
Un gros con.
Un gros con, ouais, d'accord. Il y a encore moins de... encore moins de nuances.
Encore moins sympa que les dernières fois.
La meilleure version de lui-même, c'est Spades. Salut Spades. Est-ce que tu es une version Salut. Ultimate de toi-même ou...
Oula. Ah, moi, je suis une version Exterminate, hein, surtout, mais c'est pas grave.
Donc, une version merde, j'ai oublié le nom des méchants.
Ouais, une version de merde, ça va bien. Ouais,
non, c'est de Doctor Who avec les discussions Exterminate. C'est pas les Cylons.
Les Daleks.
Les Daleks, voilà. Je confonds les Cylons et les Daleks maintenant. Ça ne va plus.
Ah, après, il peut être aussi une version upgradée de lui-même, façon Cyberman.
Ah, pourquoi pas. Un jour. Et le meilleur des hommes, demi des hommes en tout cas, c'est Titou Peinture. Salut Titou. Ça va Titou?
Salut à tous, merci beaucoup pour cette gentille présentation. Je suis un peu la version ultimate Titou, parce qu'après 40 ans de continuité qui commence à se contredire un petit peu, je pense qu'il est temps de me rebooter moi-même.
Ou à trilancher, tu vas voir.
On va demander à Jonathan Hickman de venir te relauncher, effectivement.
Ouais, on risque d'avoir quelque chose de compliqué, mais pourquoi pas.
Donc, avant qu'on se lance dans cette invasion ultime, ça fait un très bon nom de film d'action avec Chuck Norris ou Steven Seagal. Ça doit exister. on va faire une petite recommandation culturelle. Qui veut commencer sa reco culturelle? Sophie.
Bah, j'ai oublié qu'il fallait en
faire une. Pendant que tu réfléchis à ta reco culturelle, on va demander à Spades, parce que t'auras une recommandation culturelle.
Je vais vous recommander une série de documentaires sur le catch.
Vas-y.
Ça s'appelle The Dark Side of the Ring, ou en français, De l'autre côté du ring. En fait, c'est une série de documentaires qui prend toutes les histoires tragiques et glauques qu'il y a autour du milieu du catch professionnel américain. Donc, c'est souvent des histoires de morts sordides, d'accidents dramatiques, où on découvre comment l'acteur David Arquette s'est fait égorger sur un ring par un catcheur lors d'un match. Des trucs sympas, quoi.
D'accord. Mais il est pas mort, David Arquette.
Non, il s'est fait égorger. En fait, il a fait un match de catch contre un catcheur qui s'appelle Nick Gage, à pas confondre avec Nick Cage. Et Nick Gage, en fait, est un spécialiste du catch hardcore.
D'accord.
Mais du vrai hardcore. Hein, il remplace les cordes par des barbelés. C'est des trucs sympatoches et compagnie. Et en fait, comme David Arquette est champion du monde de catch depuis les années 90, réellement. Il est champion du monde WCW. Il a gagné la ceinture une fois, donc...
Mais vraiment pour la blague ou il y a vraiment
en fait dans les années 90 il a fait un film qui s'appelle Ready to Rumble qui parle du milieu du catch et notamment de la promotion de WCW qui étaient les concurrents de l'époque de la WWE.
Ouais.
Et comme il faisait la promotion, il y a eu un match où il a intervenu et il a fait le tomber sur le champion du monde et il a gagné la ceinture temporairement et ça a mis en colère tous les fans de catch aux États-Unis où ça a été considéré comme l'un des trucs les plus honteux du catch pendant 20 ans et donc en fait il a voulu se remettre dans le catch pour la vanne quand Nick Gage, qui est donc un mec ultra hardcore, hein, vraiment, il finit tous les matchs en pissant le sang par tous les orifices possibles. S'il n'y a pas suffisamment d'orifices, il en fait des nouveaux pour que ça pisse bien. Non, pour expliquer, en fait, sa grande spécialité, c'est de prendre une roulette à pizza et puis d'arracher la gueule des autres avec ça. Mais littéralement, quoi. C'est très agréable à regarder. Et donc, Nick Cage lui a dit, ah bah, si tu veux faire du catch, moi, je suis catcheur, on fait un match. Donc, David Arquette, qui savait pas du tout dans quoi il s'embarquait, il a dit oui, il est monté sur le ring, il s'est fait défoncer, il s'est pris un coup de néon en pleine gueule, le néon a explosé, il y en a un bout qui restait planté comme ça dans le cou.
Ah.
Donc c'était sympathique.
C'est aussi violent le cash.
Il y a tout en fait. C'est à la scène underground qui reste underground pour une certaine raison. Nous on connaît surtout le catch grand public avec la WWE et maintenant l'AEW. Mais il y a des trucs un peu plus glauques avec ça quoi. Mais Dark Side of the Ring, c'est vraiment un super documentaire où vraiment découle des histoires ahurissantes et qui est pas souvent drôle. Hein. Moi, je pense au double. Ils ont fait un double épisode sur les morts à un an d'intervalle d'un duo qui s'appelle Eddie Guerrero et Chris Benoit, qui étaient donc deux copains, deux meilleurs amis catcheurs qui se battaient en duo. L'un est mort officiellement d'un infarctus dans sa chambre d'hôtel avant de monter sur le ring. On se doute que dans le sang, il y a que pas des trucs pas très sains à la base. Ouais. Et l'autre, donc Chris Benoit, suite à ça, a fait une énorme dépression combinée avec les stéroïdes et différentes commotions cérébrales. Et ben, il a fini par étrangler sa femme, étouffer son fils et il s'est pendu après.
Ah, ok.
Donc ça va très très loin quoi. Et là de voir en fait les membres de la famille qui te parlent de ça, je pense à Chavo Guerrero qui est un catcheur actuel et qui est donc le neveu et meilleur ami de Eddie Guerrero. Ils ont très peu d'années d'écart entre eux, qui t'explique qu'il a récupéré son oncle et qu'il a poussé son dernier soupir dans ses bras. C'est quand tu vois un type qui a presque 50 ans être à deux doigts de pleurer, ça fait bizarre quand même.
Ok. On aura appris des trucs ce soir grâce à Spades. Moi, je vais compenser en parlant d'un truc un peu plus joyeux et un peu plus sympa. Moi, on a regardé tout Boichi the Rock, qui est un animé sur Crunchyroll avec Faye, et c'est vraiment bien. C'est l'histoire d'une collégienne au début qui est très très asociale, qui a pas du tout d'amis et qui a envie de s'ouvrir un peu aux autres. Et qui voit en voyant une interview d'un groupe de rock qu'un des membres du groupe de rock disait moi au lycée j'étais très timide et je parlais à personne, et c'est en me mettant à jouer de la musique que j'ai pu m'ouvrir au monde et puis me faire plein d'amis. Et du coup elle se dit je vais me mettre à la guitare et je vais monter un groupe, ça va être trop bien. Et du coup, elle est au début de son collège, elle apprend la guitare, mais en fait comme elle est tellement timide, elle ose parler à personne, et pendant 3 ans elle joue de la guitare toute seule. Mais elle devient très forte. Et du coup, au début de son lycée, elle est un peu dépitée parce que malgré qu'elle ait fait 3 ans de guitare, elle a toujours pas réussi à s'ouvrir à des gens et avoir des amis. Et par un concours de circonstances que je vous laisserai découvrir, elle va arriver dans un groupe et on va voir un peu. C'est un groupe de filles qui font du rock. C'est un manga vraiment chill, cool. Sympathique, la musique est plutôt cool et il n'y a pas du tout de fanservice, il n'y a pas du tout de trucs un peu creepy, vraiment l'animation, en plus il y a plein de petites il y a plein d'humour par rapport au fait qu'elle est très timide et très asociale, et à chaque fois ils jouent avec l'animation, ils essaient plein de trucs différents pour montrer comment elle se retrouve un peu dans son monde à elle et tout. C'est vraiment bien foutu. Moi, ça m'a fait un bien fou de voir cet animé. Il est vraiment super feel good. C'est en une saison de 12 épisodes. Ça se mate très très vite et ça fait un bien fou. C'est très très cool. Et encore une fois, les musiques sont vraiment sympas. Ce qui est très cool quand c'est un animé qui parle de musique. Et j'en profite pour vous annoncer la nouvelle émission. J'ai mis le teaser, le premier teaser sur les réseaux sociaux. Donc normalement jeudi, si tout se passe bien, vous aurez le premier épisode de cette nouvelle émission consacrée à la BD asiatique. Et je mets vraiment BD asiatique et pas manga, bon, même si l'émission s'appelle Manga Ken.
C'est bien foiré ton truc.
Oui, non, mais parce qu'il faut, il faut un nom, il faut un nom un peu catchy. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est de parler de la BD asiatique dans toute sa diversité et d'essayer de parler d'un peu de tous les genres et pas parler juste de shonen, neketsu, Dragon Ball, ce genre de choses. Vraiment, on va parler de webtoon, on a Sigin qui vient parler de yaoi, donc vraiment il va y en avoir pour tout le monde. L'émission est vraiment cool, elle est sur le même principe, j'en ai un peu parlé sur le Discord, ça va être sur le même principe que ce qu'on a fait avec BD Discovery. Donc c'est un truc que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu avec Comics Discovery, parce que l'équipe est plus, on est plus éparse et puis c'est compliqué de faire une hebdo dans ce format là. Mais du coup maintenant on va être tous sur Montpellier, on enregistre les émissions de notre côté ensemble et je trouve que ça apporte un autre truc, une autre ambiance et une autre tonalité à l'émission. Donc j'espère que vous apprécierez cette nouvelle équipe, cette nouvelle émission. Normalement, si tout se passe bien, ça, je le sors jeudi. C'est déjà tout monté. J'ai fait un gros effort de montage pour une fois. D'habitude, pour être sincère avec vous, comme Discovery, je coupe le début, je coupe la fin et je réécoute pas parce que j'ai pas le temps de faire une hebdomadaire et de vraiment faire un travail de montage très 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 propre dessus. Enfin propre, très précis plutôt. Là vraiment, je vais essayer de faire l'émission la plus dynamique et la plus cool possible, donc j'ai fait un gros effort de montage. Donc j'espère que vous apprécierez cet effort de montage. Et l'émission arrive jeudi, et j'espère que ça vous plaira. Normalement, il y a un petit indice pour deviner le thème du manga qu'on va traiter. Enfin, oui, du manga qu'on va traiter. Sur le teaser, je vous laisserai aller regarder ce teaser pour me dire quel est le manga dont on vous parle. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai passé un super moment à monter l'émission et à enregistrer l'émission. On a déjà décidé du thème de la prochaine. Et j'ai trop hâte de la faire. Ça va être très, très cool. Voili, voilou. Titou Peinture, est-ce que tu as une recommandation à nous partager ?
Moi, j'allais rebondir sur ce que proposait Spades. J'ai vu effectivement The Iron Claw. Qui parle également du monde du catch. Et,
il y a un épisode dédié à la vraie histoire, d'ailleurs. Ça doit être le premier épisode de Darkseid.
Donc, vous pourrez justement avoir en complément, si le film vous intéresse et vous voulez avoir la vraie histoire, suivez effectivement la recommandation de Spades. Et oui, c'est super intéressant. Qu'on aime ou pas le catch, alors si on aime le catch, bien sûr, c'est un plus, mais c'est un film, je trouve, qui est filmé avec un classicisme, mais dans le très bon sens du terme. Avec une histoire qui est aussi potentiellement dure et tragique sur toute une fratrie, les relations à leur père, mais qui en fait est pas traitée avec un pathos lourd. Enfin, c'est vraiment un très beau et un très bon film que je vous conseille très vivement. Je pense pas qu'il soit encore en salle, malheureusement, mais il devrait arriver très vite en Blu-ray ou sur les plateformes de VOD. The Iron Claw.
Qui raconte en fait l'histoire vraie de la famille Van Eyrick, qui est une dynastie de catcheurs où quatre frères et un cousin auraient dû avoir un destin extraordinaire et en fait le sort va s'acharner sur la famille et les éliminer un par un, quoi. Donc c'est vraiment une histoire très très franchement incroyable, quoi.
C'est un petit truc que je trouve très drôle, c'est quand tu fais une reco et puis que Spades arrive et qu'il te hijack ta reco en parlant plus longtemps que ça.
Ah, il explique même pas l'histoire, donc c'est
oui, non, mais
justement, ouais. Spades, pour être tout à fait franc avec toi, je voulais qu'on aille un peu vite sur les recos.
Moi non, mais c'était pas envie de parler du jeu.
C'est vrai que est-ce qu'on a envie de parler d'Ultimate Invasion? Je vous laisserai le découvrir.
Moi oui.
Ah d'accord, il y a quelqu'un qui est enthousiaste, c'est déjà bien, on est au moins une personne enthousiaste.
Attends, moi j'ai pas fait ma reco.
Ah oui, c'est vrai, vas-y, attends, excuse-moi. Comme je te lance toujours en premier d'habitude. Vas-y.
Bah déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai écouté effectivement en avant-première l'émission manga et elle est vraiment cool. Merci. Voilà. D'ailleurs, un peu à cause de vous, je me suis remis aux animés. J'ai commencé à regarder Bloodivore, hein, un truc avec des vampires. Et,
bah, forcément. De... forcément.
Mais c'est aussi une dystopie. Hein, voilà. Et il y a un complot, évidemment, avec le gouvernement, etc. Bref, je vous en parlerai quand j'aurai vu plus que deux épisodes. Moi, j'ai plutôt envie de vous recommander ou de ne pas vous recommander, ça dépend parce que... voilà. Bref, un événement sur Paris qui s'appelle le Sadik Master Festival. Ça fait quelques années maintenant que j'y vais. Et ça va être une projection de films très gore, très dur. Voilà, ça cherche à être les pires films. En gros, c'est un peu les pires films, quoi. Et voilà, il y a une pure ambiance, voilà. Mais faut avoir l'estomac bien accroché, voilà. D'autant que dernière fois, il y a un côté très arty, donc en plus, les films peuvent être un peu lents, voilà. Un peu forcément fait avec des bouts de ficelle des fois. Mais voilà, il y a une pure ambiance. C'est sur Paris et c'est vraiment l'ambiance de petit festival, un peu sous manteau, même s'il est plutôt officiel, quoi. Mais voilà, il y a une ambiance sympa. Alors moi, je vous ai envie de dire que testez. Si vous n'arrivez pas à supporter les films, vous sortez, vous allez boire une bière avec l'équipe du festival qui est là, qui est sympa, quoi. Voilà. Et c'est dans un petit cinéma indépendant de Paris, les 5 Comartins. Et c'est le week-end prochain, voilà. Enfin, le week-end qui arrive, quoi.
Je rebondis, comme tu as rebondi sur ma reco, pour vous re-recommander, on en a déjà parlé, mais le podcast avant d'aller dormir, notamment l'épisode 48
ça
s'appelle La Chasse. En fait, avant d'aller dormir, c'est un podcast qui narre des nouvelles qu'on leur envoie. Et Sophie a envoyé une nouvelle qui a été racontée dans cet épisode. Et la nouvelle est très, très cool. En plus, ça parle de la passion de Titou Peinture. Donc, je suis sûr qu'il va se jeter sur ce podcast parce que ça parle d'une histoire de vampires et de chasseurs de vampires. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais vraiment, l'épisode est très, très bien. L'histoire est très, très bien. Allez écouter ça. De toute façon, vous avez le Linktree de Sophie qui est dans la description. Et vous pouvez aller découvrir tout ce qu'elle fait, voilà. Je vous recommande ça et je vous recommande fois. Et je recommande une deuxième fois parce que je crois que j'en ai un peu parlé, mais je le refais. Il y a Diane, ancienne membre de l'émission, ancienne membre actuelle, elle est toujours là dans nos cœurs avec nous, qui a fait un épisode de Comment c'est bien. Le podcast où j'étais intervenu il y a pas trop longtemps. Et le replay est disponible. Comment c'est bien. C'est un podcast mensuel où c'est juste des gens qui viennent, qui se réunissent pour parler pour vous recommander des trucs cool qu'ils aiment bien. Voilà, c'est chill, c'est sympa. Et puis effectivement, c'est le podcast de Grogberm. Elle vous a parlé d'une autre des passions de Titou Peinture. Et en plus, je lui dis comme ça, il va dire mais non, c'est pas ma passion. C'est la fanfiction. Et dans cet épisode de Comment c'est bien, elle fait une espèce de lien entre le JDR et la fanfiction. Donc notre ami Peinture a fait un peu la fanfiction sans le savoir puisque il a été longtemps MJ de jeux de rôle. Donc voilà.
Après c'est plus les jeux de rôle comme sur internet quand même qui sont.
Ouais, c'est plus mais c'était pour faire je grossis un peu le trait. Mais l'épisode est vraiment cool. Je sais pas si XP tu peux balancer le lien dans le chat de l'épisode 3 si t'as le time, ce serait très bien si tu t'avais, mais au pire je le mettrai dans la description parce que je l'ai pas fait la semaine dernière alors que j'avais dit que je le ferais, mais là je le ferai, promis.
C'est vrai parce qu'en plus ça m'intéressait, je me suis dit mais James ça va pas partager le lien.
Ouais, bah, j'oublie toujours quand on fait des recos. Hein. Mais vraiment c'est bien et j'ai vu que sur ses replays elle avait que 9 abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment trop peu. Donc si vous avez l'occasion d'aller vous abonner, même si vous allez pas regarder, vous lui laissez un peu de visibilité, ça. Un petit like et un commentaire et ça vous coûte rien du tout, juste un tout petit peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. C'est très cool, l'équipe est très cool. En plus, moi mon épisode, bon après c'était moi, mais j'avais parlé de comics, donc allez-y, peut-être que je vous donnerai envie de lire 2-3 trucs, on ne sait jamais. puisque je suis en train de parler de podcast, on a sorti un épisode de We Have to Go Back, notre podcast rewatch de Lost. Il y a l'épisode 6 de la saison 1 qui est consacré à Sun et Jean. Donc, si vous avez envie de suivre cette aventure autour de Lost, vous pouvez continuer. Normalement, on a tourné jusqu'au 9. Donc, il y a les 9 qui sont sur le banc de montage. Enfin, il y a les épisodes suivants qui sont sur le banc de montage. Ça devrait sortir vite. On va essayer de rattraper un peu notre retard. Comme ça, vous pourrez suivre le podcast et nous, les lives en même temps. Et vous pourrez commenter les épisodes avec nous. Ce sera trop bien. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à annoncer, je crois. On peut enfin passer à cette... On n'avait pas envie de le faire, mais on va le faire. À cette fameuse... invasion ultime, et je vais réintroduire, et d'ailleurs il y avait Spades qui est on va faire les choses un peu différemment parce que je pensais que c'était quand même important de refaire un petit point éditorial. Donc Spades va je réintroduis et on arrive tout de suite. Donc voilà, salut à tous, cette semaine on vous parle de Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et de Brian Hitch. Mais pour l'occasion, puisque Ultimate Invasion, c'est un peu la relecture ou le renouveau de cette nouvelle univers Ultimate, j'avais envie que Spades nous parle un peu de cet univers Ultimate et qu'est-ce que c'était pour les gens qui ne connaîtraient pas. Vas-y Spades.
Donc en gros, l'univers Ultimate, c'est ce qu'on appelle éditorialement un imprint, qu'on traduit abusivement en français comme étant un label, faute de termes plus adéquats. Il s'agit d'un ensemble de titres publiés sous un même nom chapeau, donc comme pour un label, et destinés à un public bien spécifique. En gros, c'est un peu... c'est un peu comme la collection Bibliothèque Verte chez Hachette, c'est spécifique pour tel type de public, ou la Pléiade de Gallimard... pour tel type aussi, quoi. L'idée de cet univers, c'est absolument pas nouveau. Il s'agit juste de créer des comics pour un nouvel auditoire qui ne se retrouve plus dans les titres habituels de Marvel. Dans les autres exemples d'imprint dans ce style-là, on va trouver autant des trucs qui essaient de remettre au goût du jour les héros classiques comme Heroes Reborn ou Marvel Knight, qui sont aussi des imprints, que des trucs qui vont reprendre les personnages et les détaches de la continuité classique. Par exemple, l'imprint Max chez Marvel. Dans le cas de Ultimate, là, on part sur un tout autre univers qui reprend tout à zéro et qui devient totalement distinct de l'univers classique Marvel, donc l'univers 616. Là, ça devient le 1610 de mémoire.
610, ouais.
Et en fait, c'est un peu dans la lignée. Marvel avait fait un peu un truc dans le même style dans les années 80 avec un imprint qui s'appelait New Universe, qui était en fait un nouvel univers Marvel avec que des nouveaux personnages. Et une spécificité, c'est que c'était en temps réel. Donc, entre chaque épisode, t'avais vraiment un mois qui s'était passé, quoi. Et ça a duré 3 ans avant de sombrer totalement dans l'oubli, mais c'était plutôt sympa. Là, pour en revenir sur Ultimate, cet imprint, il va arriver au moment où les comics en général, et Marvel en particulier, touchent le fond tellement les ventes, elles se sont effondrées. Donc en gros, les ventes totales annuelles de comics, tout éditeur confondu, elles passent de 1 milliard de dollars en 93 à 270 millions fin des années 90. Donc la chute est très très violente. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les gens spéculent plus des masses sur les comics. C'est plus rentable de collectionner des comics à l'époque. Et puis du coup, ils n'arrivent pas à recruter des nouveaux lecteurs. En 97, alors que Marvel est vraiment au bout de leur vie, on a un rachat de la société par une autre société qui s'appelle Toy Biz, qui va mettre donc Ike Perlmutter à la tête de Marvel. Et Ike Perlmutter, c'est un personnage qui est très, comment dire, hein, disons qu'il est très pote avec Trump. Voilà, donc il y aura beaucoup de polémiques autour de lui avec le temps. Et il va placer donc à la tête de Marvel un trio qui va être Avi Arad, Bill Gemas et Bob Arras. Pour Avi Arad, pour sauver Marvel, il n'y a pas le choix. On va céder les droits d'adaptation au cinéma de tout ce qu'on peut. Donc ça va être les X-Men qui vont être cédés à la Fox, Blade à New Line, Spidey à Sony. Donc en gros, si vous avez Venom 3 qui arrive bientôt, c'est grâce à Avi Arad. Ou alors pour ceux qui ont vu Madame Web, vous pouvez lui envoyer vos plaintes directement. pour Bill Gemas, en fait, ça passe par une restructuration des comics. Pour lui, les comics sont devenus, selon ses propres mots, impossibles à lire pour un nouveau public et surtout complètement inabordables. On dirait moi, le mec, au final. Et pour Bob Arras, ça passe par une nouvelle manière d'aborder les histoires et de les écrire. Donc du coup, alors que Marvel vient de se mettre en faillite, selon le chapitre 11 de la loi pour les banqueroutes aux États-Unis, ce dernier va recruter Joe Quesada et Jimmy Palmiotti pour faire une expérimentation qui va aboutir à la création de l'imprint dont je parlais tout à l'heure, qui va être dédié au personnage secondaire très street level, Marvel Knight. Et Marvel Knight, bah ça va avoir un joli petit succès quand même. Ça remet au goût du jour des personnages qui sont un peu devenus ringards. Ça redonne vraiment un ton plus, un peu plus de peps en fait. Quesada et Palmiotti, ils vont recruter pas mal de leurs potes pour travailler sur cette imprint là. Et c'est surtout des artistes qui vont expérimenter, c'est des auteurs qui vont tenter des nouvelles approches narratives. Et comme ça va marcher, bah, Gemas, il va se dire, on va être encore plus hardcore et on va carrément, en fait, créer un univers qui va tout reprendre à zéro et qui va être décorrélé du reste de l'univers Marvel classique. Et il va recruter pour ça un auteur indé de chez Indé, Brian Michael Bendis, et lancer, en fait, l'univers Ultimate. Une relecture moderne dans la forme et le fond des personnages classiques de Marvel. Le premier titre à sortir, ça sera en 2001, donc ça sera Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et avec Mark Bagley au dessin. Et rien que leur run à tous les deux est considéré comme le plus long run avec la même équipe créative des comics Marvel de leur histoire. Je crois 111 numéros d'affilée, ce qui fait beaucoup. Et c'est un carton absolu, autant critique que commercial. Vraiment, en fait, ça sauve Marvel, alors que Gemas avait annoncé à Bendis que ce serait peut-être le dernier comics Marvel ever si ça marchait pas. Peu après, donc, ça va être le recrutement de Mark Millar pour chapeauter d'abord les Ultimate X-Men, puis enfin les Ultimate, qui pour le coup est en fait le comics qui va le plus influencer le cinéma de super-héros dans les années à venir. C'est l'influence directe du MCU. L'univers Ultimate va poursuivre au gré malgré, hein, ça va être des montagnes russes tout du long, hein, on aura des très bons passages, des passages moins bons. Si Ultimate Spider-Man est plutôt globalement très très bien reçu par le public, les autres séries c'est beaucoup moins le cas, hein. Je pense notamment à toutes les séries autour des Ultimates qui vont être reprises par Jeff Loeb par la suite. Et au final, lors de Secret War en 2015, ils vont décider d'arrêter complètement la ligne Ultimate avec potentiellement la destruction totale de l'univers. Et seuls subsisteront en théorie donc Miles Morales qui va rejoindre l'univers classique et tous les personnages qui l'entourent, même sa mère qui était morte dans l'univers Ultimate ressuscite pour le coup. Et donc le personnage de The Maker qu'on va découvrir ici dans ce titre-là.
Eh bien, merci Space. Superbe. Je n'entendais pas moins de l'ami Space. Vraiment, si vous connaissiez pas l'univers Ultimate maintenant, vous avez un petit point dessus. Et donc, Titou Peintour, qu'est-ce que tu as pensé de Ultimate Invasion?
Alors, j'ai pensé plein de choses de Ultimate Invasion. Je voudrais aussi, pour tous les auditeurs, donner aussi, enfin, contextualiser, moi, comment j'ai vécu l'univers Ultimate, puisque pour moi, c'est vraiment l'univers Ultimate qui correspondait à un nouvel âge d'or. À l'époque, je le voyais vraiment comme ça, du comics, qui a été une tête de proue, et ce qui m'avait fait remettre au comics, je crois que c'était le numéro 2 des Ultimates, justement, par Brian Hitch, et j'avais pris une énorme claque, je crois, en le regardant dans un kiosque. Et c'est une époque où je lisais vraiment tout ce qui sortait en Ultimate. Donc c'est vraiment un univers que je connais bien, que j'affectionne particulièrement. Et vous m'excuserez pour peut-être avoir un attachement qui m'a un petit peu influencé dans la lecture de ce titre. Alors de quoi, d'abord je vais vous dire rapidement de quoi ça parle. Eh bien en fait, on a une scène d'ouverture qui est complètement en miroir avec celle du premier Ultimate, où justement, eh bien en fait, une espèce d'équipe de barbouzes vient délivrer ce fameux maker qui n'est autre, alors je c'est pas du tout un spoil de vous le dire, qui est autre que le Reed Richards de l'univers Ultimate, qui lui, contrairement à son homologue de 616, a extrêmement mal tourné. C'était aussi un personnage qui était très très important dans les Secret Wars que Hickman avait écrit. Et donc bien sûr, comme les méchants ne restent pas trop longtemps sous les verrous, comme d'habitude, vous doutez que il arrive à s'enfuir. Les Illuminati essayent de l'arrêter et ce fameux maker met en place un nouveau plan. Et on comprend très très rapidement qu'en fait ce plan est une sorte de façon de ressusciter son univers, mais tout en modifiant un petit peu les règles, puisque il va faire en sorte, eh bien, que dans ce nouvel univers, les super-héros qui lui ont déjà posé des problèmes ne lui en posent plus. Et pour ça, eh bien, comme c'est un génie, hein, c'est quand même un Reed Richards, eh bien, il va tout faire pour que soit influencé le destin de certains des héros, complètement supprimer les pouvoirs d'autres en changeant vraiment des éléments importants dans la ligne temporelle. Et ce que l'on va découvrir en fait dans ce titre, très vite après la première issue, qui est plutôt celle on va dire de l'évasion et qui se passe effectivement dans l'univers 616, eh bien on va découvrir un petit peu ce nouvel univers. Il va poser les jalons de ces personnages et eh bien de quelques héros qui subsistent, qui sont pas forcément ceux auxquels on pouvait penser dans un premier temps, qui eux vont essayer de revenir dans une sorte de statu quo et de redonner une chance en fait aux super-héros pour contrecarrer ce monde qui a priori parfait, qui va être créé par le Maker, qui est un personnage avant tout qui se définit pour moi non pas comme maléfique mais comme un pragmatique ultime.
C'est un objectiviste en fait, selon la théorie d'Ayn Rand. Et là, c'est clairement dit.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, même si vous connaissez plus effectivement les personnages de comics, il y a aussi un peu d'Ozymandias hein, dans la façon de pour avoir un monde en paix. Il va peser le pour et le contre. Et lui, contrairement à beaucoup de héros, n'hésitera pas à sacrifier beaucoup de choses pour avoir un monde qui lui va estimer complètement idéal. Alors, forcément, l'histoire, comme je le raconte, ça vous évoque peut-être différentes choses. Par exemple, le monde de House of M, cette espèce de monde parfait de Magneto, et où à la base, c'est Wolverine qui va lui essayer de le remettre en question. Là, c'est, on va dire, le protagoniste. Ce n'est pas Tony Stark, effectivement, mais c'est Howard Stark qui, allié, en fait, a changé son destin, puisqu'il est... Il est toujours allié avec Obadiah Stane et qui va en fait un petit peu découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui sont étranges et qui va se lever contre ce maker. Là où c'est aussi très intéressant, et là je parle pour les nostalgiques, c'est que, eh bien en fait, il y a beaucoup de scènes qui font complètement miroir à l'histoire d'Ultimate. Je vous parle de cette scène d'ouverture qui à la base était assez spectaculaire et très inspirée de Matrix à l'époque, avec Black Widow et Hawkeye qui menaient l'assaut contre un immeuble, contre les fameux Chitauri. Le nom ne doit pas vous être étranger. C'est d'ailleurs pour ça que Spade a eu tout à fait raison en disant que Ultimate, c'est la première source d'inspiration du cinéma de super-héros, du MCU. Hein. Ça, c'est assez évident. Vous avez aussi plein d'autres pages où c'est vrai que moi, ça m'a fait un plaisir fou de voir en fait une scène qui est exactement la même, dessinée de la même façon, mais on va remplacer Howard Stark par Tony Stark, et vous allez avoir au moins deux pages qui sont pratiquement...
Il est bien l'heure de boire quelque part dans le monde, par exemple.
Par exemple. Et ce qui renforce effectivement cet effet, puisque je ne vous ai pas encore parlé du dessinateur, c'est que l'ensemble est dessiné par Brian Hitch, qui était le dessinateur originel, effectivement, des Ultimates. Et je vous avoue qu'en fait, retrouver Brian Hitch, ça m'a fait plaisir, parce que je trouve qu'il a un peu retrouvé de son niveau de l'univers Ultimate. Vous avez pu le voir dans plein de séries, Brian Hitch. Et c'est vrai qu'avec le temps, peut-être les délais, il y avait certaines planches qui semblaient un petit peu, on va dire, des anatomies qui étaient un peu étranges, avec des postures. Là, je trouve qu'effectivement, il retrouve son niveau, même si je suis assez d'accord avec James. C'est pas toujours le cas. Il y a d'ailleurs des planches qui sont... on le voit, enfin, qui sont presque un peu bâclés ou sans doute finis par l'encreur. Mais il y a une vraie, je trouve, il y a un vrai respect de Jonathan Hickman, en fait, sur le travail puisque de Millar, comme l'a dit Spade, puisque c'était le scénariste principal des Ultimates. Et en fait, il va convoquer cet univers avec énormément, je trouve, de respect. Alors, on est toujours chez du Hickman. Il y a des choses qui sont un petit peu alambiquées. Je vous avouerai que le dernier tome, en fait, nous l'avons lu en anglais. Et moi, c'est vrai que du coup, j'ai eu des choses un petit peu où j'ai eu un peu de mal à comprendre. Donc, c'est pas un comics, en fait, qui se lit si facilement. Je le compare au niveau de l'accessibilité, vous me direz si vous êtes d'accord, mais je le compare en fait surtout à des événements en fait à la Infinite Crisis. Je mets pas la qualité à égalité, bien entendu, mais où le récit n'est pas forcément si accessible que ça, mais il est fait pour relancer des choses qui le seront derrière. Et ces choses qui seront derrière, c'est en fait toutes ces nouvelles séries Ultimate qui vont sortir par la suite, qui sont déjà sorties aux États-Unis. Vous allez avoir un nouveau statut avec un nouveau Spider-Man, un nouveau Ultimate Spider-Man qui, pour Sophie, ça te fera plaisir, c'est un Spider-Man qui est très différent si tu as vu les covers.
Elle l'aimera pas. Il est trop gentil.
De la proposition effectivement qui avait été fait à l'époque par Bendis, il y a un Ultimate Black Panther et puis bien entendu des Ultimates, alors je sais plus s'ils appellent Ultimate Avengers ou Ultimate tout court, qui vont
aussi voir le jour.
Alors c'est les X-Men surtout.
C'est les X-Men.
Les Vengeurs aussi.
D'accord.
OK.
Et de toute façon, la fin du comics vous indique aussi également que c'est des héros qu'on va retrouver dans une version qui est assez proche de celle de l'ancien univers, avec bien entendu des variantes de personnages, puisque finalement c'était ça aussi l'ADN d'Ultimate, c'était en fait de casser un petit peu des attentes, de changer des personnages et de proposer au moins quelque chose de différent, parce que c'est vrai que aussi Space, c'est un peu ce qu'il disait, c'est-à-dire toutes les séries n'étaient pas égales, mais toutes les séries n'étaient pas sur le même ton, c'est-à-dire que vraiment, vous avez Ultimate qui était sur la lignée un peu de ce que Millar avait fait sur Authority. Hein. Franchement, on est dans une ligne directe. Spider-Man, qui était une vraie série teen, au final, avec toutes les qualités qu'on peut aimer ou pas. Et puis après, les Ultimate X-Men, dont on pourra parler. Mais surtout, là où je voulais mettre aussi le point, c'était les Ultimate Fantastic Four de l'époque. Puisque ce personnage de Reed Richards restera en fait au cœur d'un petit peu tout et sera l'antagoniste malgré tout principal. Alors est-ce que moi je vous conseille le titre? Honnêtement, pour tous les amoureux de cet univers qui a disparu, oui, totalement. Je vous le conseille. Je trouve que c'est une bonne lecture. Personnellement, j'aime plutôt bien Jonathan Hickman, même si c'est compliqué. Si vous l'avez suivi sur Secret Wars, c'est aussi dans cette continuité. Donc, bien entendu que vous devriez, si vous avez apprécié Secret Wars, en tout cas, ne pas détester ce Ultimate Invasion. Et puis, ça vous permettra de savoir comment cet nouvel univers va démarrer et présenter toutes les grandes figures qui devrait jalonner ce nouvel éditorial et qui, moi, je l'espère, durera et aura au moins le même succès que ce qui a été fait chez Ultimate, puisque avant tout, c'est une grande bouffée d'air frais pour les créateurs qui pouvaient expérimenter énormément de choses, que quand c'était raté sur certains personnages, c'était pas si grave que ça, il y avait pas de levée de bouclier, en tout cas à l'époque, Internet était quand même un peu moins puissant, comme disait Spade, ça fait combien
23 ans.
Donc 23 ans, forcément vous rappellerez où est-ce que vous étiez il y a 23 ans, et où justement certaines réécritures de personnages sont révélées tellement intéressantes que soit ils ont été intégrés au MCU classique, c'est le cas de Miles Morales, ou alors qui ont été intégrés plutôt tels quels dans les films qui ont suivi. Donc moi, contrairement, j'ai l'impression, ce que j'ai cru comprendre en tout cas de James, Sophie et Space, je vous écouterai avec attention, mais j'ai passé un bon moment, et même si oui, il y avait senti un petit peu de nostalgie, c'est pas grave, je l'assume, j'ai pas forcément boudé à mon plaisir.
Alors si Tito Peinture a fait un peu de remise en contexte, je vais me permettre de faire pareil. On est à peu près le même âge avec Vincent, donc moi aussi Ultimate m'avait un peu marqué et ça avait enfin j'ai eu plusieurs périodes où j'ai essayé de reprendre les comics et Ultimate a fait partie des moments où j'ai essayé de où je prenais enfin je reprenais pas où c'est un peu là où j'ai commencé à lire du comics. Mais moi c'est surtout Ultimate Spider-Man qui m'avait marqué. J'avais lu le début de Ultimate et de Ultimate X-Men. Mais j'étais pas allé au bout et j'avais pas lu du tout ce qui va être important pour la suite. J'avais pas lu du tout le Ultimate Fantastic Four de Millar. Donc le personnage du maker ou du créateur, je ne le connaissais pas. Je connaissais juste de nom. Je savais juste que en regardant, j'avais pu tomber dessus une fois ou deux dans une page de comics, mais j'étais pas allé bien plus loin. Et je savais que c'était le Red Richards devenu méchant. Quand on me disait le renouveau de l'univers Ultimate, ça m'avait un peu hypé parce que effectivement je suis très très fan de Ultimate Spider-Man et si c'était dans le même état d'esprit je me disais pourquoi pas et j'avais des bons souvenirs de Ultimate de Mark Millar mais je crois que les bons souvenirs c'est très le début et puis après ça part plus t'avances dans le bouquin et moins ça devient bien. Et je crois que c'est...
Sachant que, comme l'a dit Spades, effectivement, en fait, il parlait de saison, hein, donc il y avait la saison 1, donc Ultimate 1 et Ultimate 2 qui étaient parmi là. Après, il y a eu la saison 3 qui était par Jeff Loeb et qui était très, très différente au niveau du temps. Okay. Je te laisse reprendre.
Du coup, j'ai commencé à lire Ultimate Invasion j'ai découvert... que Hickman n'introduisait vraiment pas du tout le personnage du créateur. Et moi, vraiment, je pensais que Ultimate Invasion, ce serait un peu... Enfin, quand j'en avais discuté avec Vincent, et il a fait... Bon, je sais pas si c'est une erreur, mais il a pas fait la même comparaison quand il m'en a parlé en privé qu'il a fait maintenant. Il s'est ravisé parce qu'il m'avait dit oui, c'est comme Flashpoint. Alors, pour le coup... j'ai pas lu Infinite Crisis, donc bon, pour le coup je pourrais pas savoir si la comparaison elle est viable ou pas, mais la comparaison avec Flashpoint elle y est pas du tout je pense
même pour Infinite Crisis elle est pas bonne parce que Infinite Crisis ou même Flashpoint c'est des events qui implique en fait qu'il y a le titre principal mais que toutes les séries sont en diapason avec en fait. Quand Flashpoint est sorti, Batman, c'est le Batman Night of Vengeance de Flashpoint qui sortait à ce moment-là. Oui. Tandis que là, c'est vraiment une mini-série qui est contenue.
Oui, mais sachant que je ne te parle pas, moi, d'éditorial, je te parle, en fait, sur la question, c'était d'accessibilité.
Oui, moi aussi, c'était le même...
Pour moi, ça, en fait, effectivement, c'est pas accessible, mais ce Ultimate Invasion, il est pas... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, et puis James le confirmera, mais il est pas forcément fait pour accessible. Ce qui est fait pour être accessible pour du nouveau lecteur, c'est justement toutes les séries qui arrivent.
Alors pourquoi moi vraiment j'ai lu le truc en disant c'est la porte d'entrée pour découvrir l'univers Ultimate et pour le coup en fait dans toute ma lecture j'ai été très frustré parce que je trouve pas du tout que c'est une bonne porte d'entrée. Et contrairement à Flashpoint, moi j'ai commencé. Je te prends un exemple tel qu'il est. J'avais jamais lu de comics d'ici sérieusement avant de lire Flashpoint. J'ai découvert tout l'univers d'ici avec Flashpoint. Et excuse-moi, j'ai compris tout ce que voulait me dire Flashpoint, même si j'avais jamais lu de ma vie de comics Flash.
Oui, et pourtant, mais le point où je veux en venir, c'est est-ce que Flashpoint, c'est une bonne introduction au New 52, alors que ça n'a strictement rien à voir.
Oui, ça l'est un peu, parce que t'as des répercussions pour l'univers.
Non, tout l'univers Flashpoint, sorti de Flashpoint, il n'y a plus rien, t'as un nouvel univers qui se déploie après. Tandis que là où veut en venir Titou, c'est qu'en fait, Ultimate Invasion, il amorce...
C'est pour ça que j'entends plus.
Je comprends ce que dit Spades.
C'est en gros le Ultimate Invasion. Ce qu'il fait, c'est il va t'amener sur un nouvel univers directement qui va rester derrière. Parce que en fait, passer le premier épisode qui est vraiment, les deux premiers qui sont la fuite de The Maker, les deux autres, c'est l'introduction du nouvel univers. Ultimate. Et la fin de l'épisode te pose le début du statu quo pour cet univers-là, ce que ne fait absolument pas Flashpoint.
Ok, bah pour le coup, déjà, en commençant à lire, je me dis je me sentais un peu flousé en disant bon bah il représente pas du tout son personnage, et je me mettais dans la tête de quelqu'un qui débute avec Ultimate, ne sachant pas du tout qui est le maker. Et apparemment Sophie l'avait compris, mais moi j'ai eu l'impression qu'il ne le disait à aucun moment que c'était le Reed Richards de l'univers d'Ultimate. Du coup, j'ai maté une vidéo. J'aime pas faire ça parce que c'est pas le genre de vidéo que j'aime bien que je mate. Et puis un vidéaste qui me raconte un comics, ça ne sert à rien, autant aller lire le comics. Mais pour le coup, je suis allé mater une vidéo qui expliquait les histoires, qui résumait en fait tout Ultimate de Millar. Et je suis désolé, le truc m'a pas du tout donné envie de le mater. Vraiment, ça montre vraiment, on dirait que Reed Richards, c'est une étincelle qui fait une crispation parce que sa femme la plaque, parce que sa meuf le plaque, et donc il devient méchant juste parce qu'il se fait plaquer. C'est résumé très grossièrement. J'en ai discuté avec Tietou qui m'avait un peu plus et réexpliqué les choses. Mais bon, vraiment, moi, ça m'a pas donné envie de lire le titre. Déjà que j'aime pas Millar. J'ai pas eu envie d'aller sur le titre de... Bon, peut-être que c'est bien, hein, mais en tout cas, l'histoire que j'en ai lue m'a pas donné envie de le lire.
T'as pas donné envie.
Ouais, Ultimate a raison. Déjà, j'ai trouvé que Brian Hitch était pas à son... Enfin, j'avais des bons souvenirs de Ultimate tout court, où c'était lui le dessinateur. Là, je l'ai pas trouvé oufissime.
Il a fait tellement pire, je suis d'accord, mais en fait il a fait tellement pire que c'est pas encore là, mais il remonte.
Ouais, mais du coup moi mon point de comparaison c'était Ultimate, et quand tu prends le point du haut, c'est compliqué quoi. Ça reste très lisible, et j'ai vu des trucs vraiment pires, et je trouve Hickman introduit, j'ai pas eu l'impression qu'on m'introduisait un univers, et il y a vraiment plein de concepts que j'ai l'impression d'être passé à côté. Je dois être trop con pour lire du Hickman. En même temps, pour être sincère avec vous, j'ai réfléchi à ce que j'avais lu de Hickman et ce que j'avais aimé de Hickman, et ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment, j'avais bien aimé Oxbox, et j'avais bien aimé son Manhattan Project qu'il avait fait. Je sais plus qui dessinait avec lui, mais c'est sorti chez Urban, c'était pas trop mal.
Mais Secret Wars, t'avais pas aimé?
Secret Wars, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas. J'ai lâché Marvel au moment de AVX. C'est là où je me suis dit bon, c'est bon, les Power Rangers.
Je suis au bon moment. Je pense. C'était bon. Tu pouvais abandonner là.
Ils avaient lâché depuis un moment, je pense, à cette époque-là. Je sais pas si tu l'as lu AVX, mais.
Si, je l'ai lu, hein, malheureusement. C'était le début de la fin pour moi.
Donc moi, Ultimate, j'ai envie de lire le reste des séries Ultimate, mais je trouve que c'est pas cette série là qui me donnera envie de me mettre. Je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui se dit ah tiens, j'ai lu Ultimate quand j'étais jeune, j'ai envie de me remettre aux comics. Ça pourrait être l'occasion de me remettre à Marvel. Et je pense l'envie de Hickman, mais je pense que c'est raté pour le coup. Vas-y, Vincent.
Je voudrais dire que en fait c'est un comic, je trouve, qui est quand même fait pour des gens qui ont vécu cette époque, même sur du 616, parce que en fait je trouve que ça, en fait dedans, je vous ai dit qu'il y avait du House of M en fait dans le cœur, c'est-à-dire l'espèce de retour, et que donc Ultimate qui reprend sur le début, qui ressemble à Ultimate, sur le milieu qui ressemble à House of M, et sur la fin, le nouveau statu quo, qui est aussi assez proche de Dark Reigns.
D'accord.
Donc en fait, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu, je trouve, en terrain inconnu, ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, hein, au comics, c'est-à-dire que de partir sur quelque chose où à chaque fois on est quand même sur du terrain inconnu.
Du coup, il faut mieux lire House of M, Dark Reign et...
Ah mais dans l'idée, il faut toujours mieux lire l'original.
Non, Dark Reign, c'est pas obligé. Franchement.
Personnellement, Dark Reign, c'est une période que moi j'ai bien aimé. En tout cas, pour ce statu quo. Donc, ils reprennent un petit peu cette idée. Mais, c'est quand même pour dire que ils sont pas allés non plus, il est pas allé non plus vers des trucs où il a complètement, lui, j'ai l'impression, fait tout le temps ce qu'il voulait librement, mais qu'il s'est donné en fait presque une idée de reprendre des périodes qui sont un petit peu phares. C'est vraiment l'impression que moi j'ai eue. Il était moins en roue libre, même si bon, on reconnaît que c'est de la Pat Dickman, hein, mais il était moins en roue libre et plus dans un espèce de côté hommage. Alors forcément, quand on a lu ces trois récits dont je vous parlais, bah, ouais, on est en terrain connu, mais pour le bon, le côté nostalgique, quand on a aimé Dark Reigns, hein, d'ailleurs, hein, si on l'a pas aimé, c'est autre chose. Mais par contre, voilà, on n'est pas vers quelque chose de complètement jamais vu, waouh, quoi.
Du coup, je tiens à m'excuser auprès de Sophie, à qui j'ai fait subir ce truc. Et j'aimerais bien avoir son avis de quelqu'un qui n'aime pas trop Marvel en plus.
Ouais, merci. En vrai, j'avoue que j'étais quand même un peu confuse parce que moi, mes souvenirs de l'univers Ultimate datent de... Alors, quand c'était pas Miles Morales, Spider-Man, donc ça remonte. Hein. Et par contre, donc du coup, j'étais un peu paumée, même si j'ai compris quand même que c'était du coup l'univers Ultimate qui était écrasé, qui avait disparu et que du coup le créateur, qui était espèce de le Evil Red Richard, essayait de remettre sur pied. Il y a des concepts super sympas, comme le body horror à la David Cronenberg que j'ai beaucoup apprécié, le design du personnage, le côté on réécrit la réalité, etc. Je trouve ça intéressant, surtout sur le point de vue artistique, de donner cette possibilité à des comme tu disais, Sped, de donner un champ libre aux artistes de créer leur univers, de pouvoir prendre des libertés avec l'univers Marvel. Mais alors déjà, je trouve que c'est beaucoup trop court le format pour ce qu'il propose. Franchement, c'est très ramassé. Et du coup, le concept... Enfin, c'est compliqué à comprendre, je pense. Ça a fait de faire beaucoup de choses. J'ai l'impression un peu d'avoir comme le multivers, Multiversity de Grant Morrison, mais en ramassé, en tout petit. Et là, c'est débrouille-toi avec plein de concepts qui sont envoyés comme ça et qui sont... Alors, c'était pas comme moi, que t'es pas familier avec Marvel. Enfin, moi, j'ai lu certains events comme... alors je crois que j'avais lu Secret Invasion et c'est sûr que j'ai lu Civil War parce que c'est comme ça que j'avais commencé à lire plus sérieusement du Marvel, on va dire, et que j'ai décroché après. Mais là, franchement, j'étais paumée. Il y a plein de trucs où je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est d'autres versions, que je connais pas des personnages, on balance pour une référence, etc. Sauf que j'ai pas la référence. Donc vraiment, je pense pas que ça s'adresse effectivement à des gens qui sont pas habitués à l'univers Ultimate, si c'est des personnages Ultimate. Voilà, si ou qui ont lu de temps en temps à Marvel et qui ont vu les films, je pense que vous avez pas les clés pour comprendre ce comics. Moi j'ai eu l'impression d'avoir un artiste frustré qu'on lui a dit t'as juste ça pour faire un truc, et lui il commence à développer tas de trucs qui normalement c'est pour il y a des concepts même qui développent, où moi je me suis fait penser plutôt à de la fantasy. Il y a du world building de fantasy, quoi, avec l'espèce de map monde qu'il fait, etc. Ça pourrait être cool, mais là, je sais pas ce que ça. Enfin, je vois pas comment ça peut être exploité dans les comics. C'est pas trop la vibe comics d'expliquer une géopolitique. Tu vois, c'est pas trop. Je me suis dit, mais où il part? Enfin, j'ai l'impression qu'il part dans une direction qui va pas être suivie par la suite. Donc, je me dis, bon, bah. Voilà, je sais pas trop comment situer l'œuvre, quoi en faire, etc. Il y a des concepts sympas. Moi, par contre, j'étais pas trop acheteuse des dessins, parce que je suis pas fan aussi des dessins Ultimate, de l'univers de Ultimate, en tout cas que j'ai connu au début des années 2000. Et franchement, voilà, j'étais pas conquise par ce titre. Le seul truc qui m'a plu, c'est Body Horror. Voilà. Et le côté un peu joli politique, revival guerre froide, revisiter, j'aime bien ce genre de truc, mais voilà, ça m'a paru très touffu, et les concepts qui sont amenés sont pas aboutis, et du coup je trouve ça frustrant au final parce que ils développent des idées mais elles sont pas développées jusqu'au bout, quoi. Donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup Sophie. Spades, parce qu'il oui. il a pas trop donné son avis pour l'instant. Vas-y, release the Kraken.
Donc en fait, ce titre-là, moi je le rapprocherais, si je devais le rapprocher d'un autre titre, ce serait de Oxbox. En fait, oui, Oxbox redéfinissait complètement l'univers des X-Men et préparait le ce qui allait être le futur X-Men, et là c'est exactement pareil. La différence, c'est Oxbox, t'avais 6 numéros de House of X et 6 numéros de Power of X. Là t'as 4 numéros.
Je rebondis juste sur un truc vite fait, je te coupe 2 secondes, mais moi j'ai lu House of, enfin le début en tout cas, ce qu'il avait fait, et c'était beaucoup plus compréhensible. Là,
oui, parce qu'il avait plus, c'est ce que j'étais en train de dire, il a eu 12 numéros pour le faire, là il a eu 4 numéros pour faire le même boulot. Donc forcément, il part, comme vous dites, il présente rien, donc si vous ne connaissez pas le maker, c'est un peu compliqué. Si vous ne savez pas toute l'histoire qu'il y a avant, d'où vient ce personnage et compagnie, et quel est son but. Parce que si tu sais pas que l'univers Ultimate n'existe plus et qu'il est l'un des deux seuls survivants avec Miles Morales, tu comprends pas pourquoi il veut créer son propre monde.
Il le dit, mais
C'est bazardé. Tu comprends pas en fait toute la portée, on va dire. Empathique qu'il y a pour lui, quoi, d'un côté. Autant dans Oxbox, quand tu vois les premiers numéros avec Moira MacTaggert qui revient dans le temps et compagnie, tu vois en fait tout l'effort qu'elle a fait. Tandis que là, tu comprends pas trop. Et la deuxième partie, qui est donc la vraie partie intéressante pour moi du titre, qui donc est le nouvel univers Ultimate, et vraiment, Sophie, c'est un véritable nouvel univers. Les personnages que tu connais, ce ne sont plus du tout les incarnations qu'il y a eu avant dans l'univers, dans le précédent univers Ultimate. Et par la suite, il va y avoir vraiment de très très grosses différences. En fait, le truc, c'est que là, il fait du Hickman, il balance il montre quelques cartes du jeu qu'il a en main et on va attendre maintenant. Et à la fin du numéro, tu sais qu'il va y avoir un événement dans 2 ans, parce que dans 2 ans, il y a un truc qui est censé s'ouvrir. Tu sais qu'à un moment, le Reed Richards et les Illuminati donc de la Terre 616 vont intervenir, parce qu'il les a pas présentés pour rien, c'est pas dans la manière de faire de Hickman. Tu sais que Miles Morales va avoir un rapport à ça. Et en fait, ce titre-là, j'en sors plus avec de la frustration qu'autre chose. Déjà, de base, je suis pas un fan de l'univers Ultimate original. J'avais essayé Ultimate Spider-Man et j'étais trop vieux à l'époque et c'était juste une ressucée des histoires que j'avais déjà eues et ça ne m'intéressait pas de dire ça. Ultimate, je déteste Millar, donc ça résume parfaitement mon opinion sur le titre. Je déteste sa manière d'écrire, je déteste ses idées. Là, je trouve que Hickman balance plein d'idées intéressantes, notamment il pousse, comme je disais tout à l'heure, le côté objectiviste du maker. Donc, l'objectivisme, c'est une philosophie américaine développée par Ayn Rand qui influence beaucoup d'artistes et de personnes publiques anglo-saxonnes. On peut citer, par exemple, Elon Musk, qui est un fan d'Ayn Rand et Brad Bird. Et le cinéaste qui est d'où le premier Indestructible est typiquement un film dans la lignée de Ayn Rand et que je trouve abject sur son fond. Et le truc, c'est que là, en fait, donc l'univers que propose Hickman, c'est une terre partagée en 7 factions. Chaque faction avec une famille dirigeante, on va dire. Et c'est des familles qu'on connaît tous et dans des rôles qu'on n'a pas coutume de voir. Et en fait, ces 7 factions travaillent ensemble et font croire au reste du monde les inutiles et les parasites que sont les gens normaux, selon la théorie randienne. Donc, que tout se passe bien ou pas, qu'ils nous occupent de manière à ce que eux, les gens qui ont des dons, qui sont des génies, puissent travailler tranquillement. Le problème, c'est qu'il y a certains héros, donc comme l'a dit Titou, notamment Howard Stark, qui étrangement lui pas du tout d'accord avec cette vision-là, il va être le grain de sable dans l'histoire. C'est bien, c'est sympa comme idée, mais c'est pas assez développé, quoi. 4 numéros, c'était absolument pas suffisant.
Ouais. Moi je suis... Excusez-moi. Il y a Vincent qui me demandait « T'as compris le dernier numéro ?» et qui me demandait d'expliquer. Moi, j'étais en mode « Mais oui, j'ai compris. Ouais. » Je suis pas débile, j'ai quand même compris. Et j'ai voulu lui faire un vocal pour expliquer le truc. En expliquant, je me suis dit, en fait, non, j'ai pas compris. Parce que vraiment, j'arrivais pas du tout à expliquer ce que j'avais compris. Vraiment, c'est de la...
Disons qu'il y a une identité qui reste inconnue et qui va être l'un les gros défis de Hickman dans les séries futures, hein, pour donner un indice sur la personnalité. pour donner un indice sur la personnalité que je pense qui reste mystérieuse. On voit qu'elle est liée avec un personnage qui est là depuis le début, enfin depuis le début du nouvel univers Ultimate. Mmh. Mais on sait pas qui est derrière ce masque, on va dire. Et c'est surtout ça, elle l'a connu. Et en fait, le truc, c'est ce que je dis, il montre juste quelques cartes et voilà où on va.
Je parle du mec derrière le masque en métal.
Voilà.
Oui, voilà, on va essayer de pas trop en dire, mais bon, je pense que vous savez. Enfin, là, moi, je le sais. Du coup, en l'ayant lu en anglais, vous le savez. C'est intéressant, je trouve aussi. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, Spade. Moi, je trouve que ce comic, il y a plein de bonnes idées pour développer un nouveau monde. Tu as raison aussi de bien dire aux gens qu'en fait, vous n'allez pas retrouver l'univers Ultimate. C'est-à-dire que, en fait, restons dans l'éditorial. En fait, on reparle d'univers Ultimate parce que, bon, bah oui, il y a un lien qui est le Maker, mais en fait, il crée en fait un nouvel univers qui n'est pas l'univers Ultimate que vous avez connu. Même si sur les designs, on en est assez proche, mais les personnages en fait que vous aviez ne seront pas forcément, enfin que vous avez à l'époque d'Ultimate, ne seront pas les mêmes. Et c'est ça, moi je trouve que aussi intéressant parce que ça va pouvoir redevenir, et en tout cas c'est pour l'instant c'est ce qui est fait, une zone d'expérimentation quoi. Et c'est le cas notamment de Spider-Man. Alors, pareil, je veux pas trop en dire, mais si vous avez vu les sollicitations, vous avez compris où est-ce qu'ils vont venir. En fait, ils apportent. Moi, j'avais peur qu'ils reviennent en fait sur le personnage d'Ultimate Spider-Man. Pareil que Spade. Quand j'ai découvert, j'étais trop vieux. C'est-à-dire que les titres teen, ça ne m'intéressait pas. Mais en fait, ils vont aller. En tout cas, ils ont commencé à aller dans des directions qui sont différentes. J'aimerais que tu aies tort, mais je pense que tu n'as pas tort dans cette histoire de statu quo. J'aimerais que ça ne fasse pas un truc qui soit dans deux ans, qui soit complètement remis en cause. Et j'aimerais bien qu'on ne tombe pas dans les travers de Marvel.
C'est pas qui va être remis en cause. C'est, je pense que ça va être comme les X-Men post Oxbox. C'est en fait les deux ans vont être un jalon pour évoluer vers quelque chose d'autre derrière. La première phase de son plan, ça va être de développer les séries sur deux ans pour amener un événement bien précis qui est cité dans cet épisode et de développer derrière en fait un nouvel air.
J'ai bien compris, mais là où je voulais amener, c'est que souvent en fait, c'est aussi dû aux éditoriaux. En fait, les statu quo, surtout quand ils sont très, on va dire, originaux, ne durent pas forcément très longtemps. Vous parlez de Devil's Reigns. Devil's Reigns, je crois que ça a dû durer ce statu quo entre un an et un an et demi. Et comme en plus c'était la grande période de la folie des events presque tous les ans, et que il durait 4 ou 6 numéros, en vérité, on avait déjà la remise en cause de ce statu quo qui arrivait relativement vite. Ça c'est une des petites peurs que j'ai. Mais si je prends le truc, en tout cas ce comics en vraiment sans prendre en compte le reste, Je suis quand même assez d'accord sur tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire je vous rejoins quoi, notamment sur les problèmes d'accessibilité. Moi, je pense que s'il y a bien un comics qu'il faut avoir lu avant de celui-ci, en fait, c'est Secret Wars. C'est lui déjà parce qu'en fait, on s'habitue à l'écriture d'X-Man, et puis en fait, c'est des thèmes en fait dont ce Ultimate Invasion et la continuité aussi d'une certaine façon.
Moi, je me posais
Oui, vas-y.
C'est pas grave. Du coup, je me posais une vraie question et je connais déjà un peu la réponse de Spades puisque je connais son avis sur ce sujet. Aller chercher, parce que là, clairement, et on l'a dit à plusieurs fois, ce n'est pas l'univers Ultimate tel que vous le connaissez. Vraiment, Ultimate Invasion n'est là que pour le putaclic possible et c'est tout quoi.
Ça aurait pu s'appeler le Hickmanverse, ça passait pareil hein.
Oui totalement. Et du coup donc en fait le truc avoué c'est qu'on essaie d'aller draguer les trentenaires qui avaient cette
quadra.
De quoi?
Trentenaire sur la fin.
Ouais.
Les quadras,
effectivement. Donc les gens qui
ou les fans de Hickman, hein, parce qu'il y en a aussi.
Oui, oui. Je pense qu'il y a plus de trentenaires et de quarantenaires.
Ouais, mais ils n'auraient pas pris la peine d'appeler ça Ultimate. C'était juste pour attirer les fans de Hickman.
Ouais.
Le fait qu'ils appellent le truc Ultimate Invasion, c'est vraiment pour teaser les gars qu'on découvert les comics avec Ultimate au début des années 2000.
Mais c'est un vrai sens éditorial, et là vraiment je m'excuse encore une fois de te couper, mais je trouve que c'est un vrai sens éditorial, parce que comme l'avait expliqué Spade dans sa présentation, c'était un moment où créativement quand ils ont lancé Ultimate, les comics Marvel, c'était compliqué bien sûr en termes de vente, mais même en termes de, je trouve, créative. Et là, je trouve qu'on est un peu dans le même.
Il y avait Marvel Knights qui avait bien remonté le truc.
Oui, hein.
Ça reste la meilleure période de Daredevil quand même pour beaucoup. Hein.
Qui commençait, mais après, je vous dis sur les histoires des Vengeurs, enfin sur les vraiment les très grosses figures, c'était quand même assez difficile.
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Et je trouve qu'on est un peu dans la même période. C'est-à-dire que si je fais un parallèle, je trouve que maintenant, je continue quand même à lire du Marvel classique. Je trouve qu'on est un peu dans la même période. Chez les gros personnages importants, c'est pas terrible. Il y a toujours des séries qui sont très sympas en parallèle, mais les Vengeurs de Jason Aaron, ça a quand même été d'un point de vue critique très très mitigé. La série Spider-Man du moment, en fait, elle passe un peu inaperçue. C'est vraiment pas terrible. Et donc finalement que ça repop avec ce côté, allez, on rappelle ça Ultimate. On est aussi dans la vraie vie, on est aussi dans une messe d'abîme de ce qui s'était passé à l'époque. Quoi.
Mais moi, du coup, ma question, ouais, c'était, et le je te repasse la parole juste après. C'est un truc qu'on répète depuis un moment, c'est qu'il faut renouveler ce putain de public des lecteurs de comics. Il faut aller chercher des gens potentiellement plus jeunes et plus à même d'être déjà plus nombreux à lire ce truc. Est-ce que aller chercher les trentenaires et les quarantenaires, en grande partie, les gens qui lisaient Ultimate à l'époque et qui sont enclins à se dire « Ah bah tiens, je lisais Ultimate, ça me donne envie de lire. » Ils sont peut-être déjà en train d'en lire du comics. Est-ce que l'idée qui serait le plus intelligente de la part de Marvel, c'est d'essayer pas de faire un vrai relaunch et un vrai truc avec un truc pour aller chercher des gens... vous parliez de Ultimate Spider-Man qui était trop teenage pour vous à l'époque, mais peut-être que il faudrait essayer d'aller chercher un peu ce public teenage qu'ils ont perdu, parce que là on voit même quand Panini multiplie les omnibus et ce genre de choses, ils viennent chercher le public de collectionneurs, mais c'est pas celui-là qui va les faire perdurer dans le temps, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée de la part de Marvel de faire ça?
Pour répondre à ta question, et je trouve que l'intervention de Titou juste au milieu de ta question est très très pertinente, parce qu'il y a un autre phénomène, en fait, c'est les ventes qui déclinent très fortement. En fait, quand ils ont créé Ultimate, la ligne Ultimate à l'époque, les ventes étaient, comme je disais, on est passé de 1 milliard en 93 de vente totale de comics en tout éditeur confondu à 270 millions en fin des années 90. Et là, en fait, justement, aujourd'hui, je suis tombé sur un article sur IVC2, les chiffres dans les comic shops qui auraient baissé de manière drastique aux États-Unis. Donc, on parle de 8% de moins sur les ventes de floppy par rapport à l'année d'avant, et de quasiment 20% au niveau des graphiques, des TPB, quoi. Et qu'au final, les propriétaires de comic shop pensaient que le système, les graphic novel young adult allaient sauver la situation, et pas du tout. Et là, en fait, ils essayent donc de raccrocher les wagons et d'essayer de sauver encore une fois la situation avec Ultimate. Mais au lieu de faire des trucs moins chers et plus accessibles pour les jeunes, ils se disent, tiens, tous les cons qui lisaient les comics à Ultimate et qui ont arrêté, on va leur faire un signe pour essayer de les faire revenir, parce qu'eux, ils ont un travail et du pognon. Et à mon avis, ça s'est voué à l'échec. Hein. Ça
va pas ranger la situation. Exactement. Et il y a un autre truc aussi, et je complète. Les comics sont devenu beaucoup plus cher avec l'inflation, etc. Ah bah. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de reprendre un public teenage. De toute façon, ils sont obligés de le faire puisque pour renouveler le public. Sauf qu'en fait, on se rend compte, et c'est un débat qu'on a eu souvent dans l'émission, que beaucoup de jeunes, en fait, se tournent aussi vers le manga. Alors, pour la qualité des mangas, ça, c'est encore autre chose. Mais parce que, en fait, au niveau des comics, c'est aussi trop cher. Et en fait, qui peut commencer à se payer des comics normalement? Ben en fait, ce public de Quadra qu'ils ont perdu aussi en grande partie. Faire un relaunch complet, c'est aussi compliqué dans le sens où, ben en fait, tu dis à toute une partie des lecteurs que, on va dire, leur continuité, il faut qu'ils fassent une croix dessus. C'est très compliqué. Donc ils ont beaucoup de mal à s'y faire. Et en plus, ben là, moi, je suis pas étonné qu'en fait les personnages ils les fassent évoluer de cette façon-là aussi, pour une fois, parce que ça va plus parler au Quadra. Enfin, Quadra ou trentenaire sur la fin, si vous préférez.
Oui, mais la proposition
mais
de
relancer sur les jeunes, ça veut dire relancer sur les jeunes avec une politique de prix qui est complètement différente. Donc, ils auraient pu faire effectivement un nouvel Ultimate Universe. Ce qui c'était une très bonne idée, mais alors il fallait que la politique de prix accompagne totalement
sans politique de prix agressive, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Moi, ça fait des années que je dis en fait que les magazines type Action Comics, Detective Comics et compagnie, qui à la base étaient des anthologies, et c'était pas juste un fascicule de 20 pages, c'était plusieurs histoires dedans. Faut que ça redevienne ça, un peu l'équivalent du Shonen Jump pour le comics, quoi.
Voilà.
Mais eux, ils ont pas l'air d'accepter ça au niveau américain. Pour moi, c'est encore une tentative de renouvellement de public qui voit l'échec. Hein. Après, j'ai testé les séries d'après. Donc là, je suis à jour en fait sur le nouvel Ultimate Universe. Donc j'avoue que j'aime bien le nouveau Spider-Man, parce que oui, on peut que dire que c'est un nouveau Spider-Man, parce qu'il a vraiment rien à voir ni avec le Peter Parker qu'on a connu traditionnellement, ni avec le Ultimate Peter Parker d'avant. Par contre, sur le Black Panther, je suis un peu plus mitigé, quoi. C'est un titre guerre tribale. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Pas très sûr, quoi. J'attends de voir le numéro 2, mais là, sans dire que c'est mauvais, c'est sur... Je sors mitigé du premier numéro.
Ouais, c'est pas surprenant par rapport aux histoires de Black Panther que t'as eues, par contre. Mmh. C'est vrai.
Qu'est-ce que t'en penses, Sophie, toi?
Bah, ça m'a pas donné envie de lire la suite. Après, je suis quand même curieuse, là, parce que, effectivement, j'ai entendu dire que le Ultimate Spider-Man, c'était le Spider-Man qui a une famille, et donc la petite fille qui est proche de ce qu'on a vu dans les films animés récents, Spider-Man Across the Universe, que j'ai aimé ce personnage, voilà, avec sa femme et sa fille. Donc j'ai, enfin, genre envie de suivre ce personnage.
En fait,
si on le retrouve.
En fait, il y a une différence majeure avec le Peter Parker de Spider-Verse. C'est que là, en fait, le Peter Parker va avoir ses pouvoirs alors qu'il est déjà adulte et qu'il a déjà sa famille. Là, vraiment, quand tu prends le titre, il débute en tant que Spider-Man. En fait,
c'est vraiment une suite du.
Dans le comics, tu vois pourquoi il les a pas au moment de l'adolescence, là, dans Ultimate Invasion. Il y a un moment où
est-ce que on a envie de voir encore quelqu'un qui se découvre des super pouvoirs? Non, enfin.
En tant qu'adulte, pour Spider-Man, c'est différent. Hein.
Ouais.
C'est différent parce que en fait, c'est la découverte de ses pouvoirs a toujours été liée au thème de l'adolescence, découvrir son propre corps, le fluide, etc. Là, je trouve en fait c'est différent. Et puis le Spider-Man est aussi très différent dans un, en fait, quelque chose qui a toujours collé à Peter Parker, c'est-à-dire cette espèce de loose. Permanente, alors que bon, certains auteurs ont plus mis en avant que d'autres. Là, on est sur un adulte accompli, heureux, qui est aussi assez différent du Spider-Man, parce que j'ai beaucoup entendu qu'il ressemblait au Peter B. Parker de Spider-Verse, mais en fait, il est quand même très très différent parce que il a ce côté accompli. Donc en fait, on a quelqu'un qui est déjà accompli, qui va découvrir son pouvoir et qui en fait sent qu'il lui manque quelque chose à la vie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur un truc de Quadra, parce que le premier,
en fait,
c'est sa crise de la quarantaine. En tant qu'ado, bon, on pouvait vraiment se regarder Peter Parker en disant oui, je vis à peu près les mêmes choses, s'identifier, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Et autant en tant que Quadra, en fait, qu'est-ce qui fait ce Peter Parker? C'est exactement, c'est une crise de la quarantaine. C'est ma vie est accomplie, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je sens au fond de moi qui me manque quelque chose. Donc les gens de 40 ans qui ont redécouvert en fait ce Spider-Man qui n'ont jamais vraiment eu, puisque bon ben je l'ai dit 20 fois, je suis chiant avec ça, mais c'est l'occasion ratée du run de Straz.
Enfin, moi, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu, une suite spirituelle du run de Straz, mais ça n'a pas...
Bah, en vrai, c'est le Spider-Man qui est le plus près, je trouve. D'accord. Même si, comme moi, Spade, il est différent dans ça, c'est vraiment un Spider-Man adulte.
En fait, ce que j'aime beaucoup dans l'approche qu'ils ont sur le Ultimate Spider-Man...
Après, on en parle du Spider-Man pour ça sortir.
C'est concrètement, là, on est sur un père de famille qui va avoir des pouvoirs, et qui, en fait, au-delà du fait de faire une crise de la quarantaine, il y a le regard de ses enfants sur lui-même qui va jouer en tant que héros, quelle image il veut leur envoyer. Et cette responsabilité de donner le bon modèle, quoi. Et je trouve que c'est super intéressant, parce que là, le Peter est vraiment très gentil, très, très gentil, limite con. Non, complètement con.
Oui, oui, naïf, il reste. C'est super dans ce comics, ouais. C'est vachement bien fait. Il est lumineux, en fait. Ouais. Ça reste un personnage qui est lumineux et surtout qui est moins chouineur que le Spider-Man que l'on a là maintenant un peu dans l'univers 616, en fait, qui en a tellement bavé.
Ouais.
Là, il est frais, quoi. Il est frais tout en étant un peu plus vieux. C'est ça qui est bien fait. Mais bon, là, c'est encore une fois, c'est un autre titre. T'as raison, James.
En plus, est-ce que c'est une bonne idée de faire si tu veux renouveler ton public, parce que vraiment, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que faire un Spider-Man crise de la quarantaine
à partir du moment où tu veux des gens qui aient des sous pour acheter pour dépenser $5 tous les mois pour ton titre,
vrai, ouais.
T'es obligé de pas viser les gamins. T'es obligé.
Et ce n'est pas fait, et c'est là où je suis en total accord avec Spade, ce n'est pas fait pour avoir un nouveau public, c'est fait pour récupérer ce public qui a automatiquement un petit peu déserté en 20 ans les comics.
Bon,
et sur moi, ça marche, mais totalement.
Ça marche.
Quoi, c'est-à-dire,
mon mec, il a acheté le Ultimate Spider-Man. Hein. Il avait arrêté les récents Marvel. Hein.
Oui, mais non, mais clairement, c'est vraiment le but premier. S'ils avaient vraiment envie de renouveler le lectorat avec des jeunes lecteurs, Dan Slott a créé le personnage de Spider-Boy, qui est donc un sidekick de Spider-Man et Miles Morales, qui est vraiment un personnage. C'est une bouffée d'air frais, en fait, c'est très très bien écrit. Mais ce personnage-là, tu le mets en avant. La plupart des gens qui lisent du comics savent même pas qu'il existe, quoi. Pareil, t'as dans l'univers Wolverine, t'as Honey Badger qui est donc un clone jeune de Laura Kinney, X-23. Ouais. Qui est le personnage est super drôle. Honnêtement, tu fais une série comme on avait fait les Super Sons récemment avec Spider-Boy et Honey Badger, il y a moyen de faire un truc
j'aime bien signer des trucs qui t'aiment trompé. Moi, je te signe un truc, c'est-à-dire Spider-Boy, dans 2 ans, il n'existe plus.
Ah,
on n'en parle plus.
Dans 6 mois. 6 mois.
Parce que la différence, c'est que moi, j'aime pas du tout ce personnage. Même les sidekicks à Spider-Man, j'ai du mal, mais bon. Enlevons la qualité, je suis sûr qu'il n'existe plus. Et je te signe aussi, et bon, quand toujours pareil, on peut se tromper, mais je signe que ce Ultimate Spider-Man, derrière, va être un véritable carton.
Ah oui, non, mais
éclipser d'ailleurs la série 616 sans problème.
Éclipser peut-être pas, mais oui, il va y avoir. Je suis persuadé que dans 2 ans, l'univers Ultimate est encore là et que Ultimate Spider-Man sera. Sera des gros titres de Marvel, quoi, c'est quasiment sûr.
Et vous l'aurez découvert dans Comics Discovery.
quand dans un an la série Ultimate Spider-Man va s'arrêter.
Dans 3 mois, oh putain, on est doué.
J'ai vraiment dit de la merde.
j'avais des gens qui remettaient les news, parce qu'au niveau des news, c'était où vraiment je faisais des prédictions éclatées. Notamment le fait que au tout moment, parce qu'on on arrive à 8 ans d'émission, donc forcément il y avait des trucs au moment de la Snyder Cut où je répétais encore à tort et à travers qu'elle n'arriverait jamais, qu'on ne la verrait jamais. Donc, on peut revenir sur ce genre de choses où on fait des
prédictions. Bah, comme ça, tu ne seras pas le seul James à être passé, effectivement, pour un genre de Pacorama.
Et puis, il n'y a pas longtemps, j'écoutais de vieux épisodes de L'Apéro du Capitaine et j'ai beaucoup rigolé podcast sur le high-tech. Et j'ai beaucoup rigolé quand en 2011, le Captain Web annonce « Ouais, de toute façon, là, le nouveau truc de Apple, l'iPad, ça ne marchera jamais. » Voilà. Numéro 1 sur l'iPad.
Genre de passer pour un con avec.
Attends, tu veux dire qu'ils sont plus vieux que l'iPad et l'iPad.
Oui, ah bah oui, ils ont commencé en 2007-2008 dans ces eaux-là. Hein.
Ah, c'est vieux aussi.
Ah oui.
On va se poser la question rituelle de cette émission. Si on se la pose de moins en moins, malheureusement. Je le rappelle encore une fois que Spades a annoncé à Coréa Cri qu'il ne poserait jamais de coup de cœur. Donc voilà, tout mon système de coup de cœur tombe à l'eau grâce à Spades. Petite ou peinture, hein, est-ce que tu mets, et je mets certaines conditions à ce coup de cœur. Je veux que c'est juste Ultimate Invasion. Tu oublies Ultimate Spider-Man, c'est juste les 4 numéros du truc de Hickman et Brian Hitch que tu juges, est-ce que tu mets un coup de cœur dessus ou pas?
Non, parce que même si j'ai peux avoir un peu de mauvaise foi que j'ai bien aimé le comics, ça ne vaut que presque pour ce que ça va lancer le nouvel univers. Donc en tant que, comme tu dis, objet seul, l'histoire n'est pas transcendante et ne marquera pas du tout l'histoire à mon avis du comics.
Je voulais rappeler aussi pour les gens qui sont un peu... je sais qu'on a des auditeurs qui sont un peu dans ce style-là, notamment petite pensée à Angel qui n'est pas là, qui n'a pas voulu venir parce qu'elle se l'achète et qu'elle veut... Elle voulait le lire comme ça, quoi, et en profiter, que le titre est à 22 euros. Donc, est-ce que ces 4 numéros de Ultimate Version valent ces 22 euros? Je sais pas. Et on va poser la question à Sophie.
Non. Ni coup de cœur, ni salez-vous.
D'accord.
En vrai, non, mais ce serait pas sympa pour les gens de leur recommander un truc où ils vont probablement pas comprendre ce qu'ils vont lire, quoi. Donc, j'aimerais dire que c'est quand même la base de comprendre
la
ce que
Panini
tu dis.
Va falloir faire du boulot hein, pour l'éditorial. Ils peuvent pas lâcher la série comme ça.
En plus, je comprends pas parce que. Il y a des petites feuilles au début, il fait des petites fiches là pour le personnage où il t'explique deux ou trois trucs.
Ouais.
Et tu fais.
Il aime bien faire ça, Hickman.
Ouais, mais ouais, effectivement, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu en profites pas pour donner des infos qui manquent clairement dans ton texte?
Mais là, pour le contexte, on n'a pas eu l'éditorial du tout. On a lu en VO, donc on a lu les issues, enfin les fichiers floppy. Donc on n'a pas du tout l'éditorial voilà. Qu'aurait pu proposer Panini. Ouais, mais ça se trouve, il est très bien, mais bon,
qu'en tant qu'auteur, comme disait Sophie, tu prends, on a lu Dame Zemol où t'avais le Pokédex des démons dedans. Ouais. Tu pouvais faire un truc pareil là-dedans, quoi. Ça aurait pas gâché, quoi.
Et du coup, toi, Spades, est-ce que tu y mettrais 22 euros et est-ce que tu y mettrais un coup de cœur, même si je connais la réponse
22 euros, non, ça les mérite pas, le coup de cœur non plus, quoi. C'est juste un teaser de ce qui va être après, quoi. Donc, franchement, ouais, ça vaut le coup de savoir, de connaître les cartes que dévoile Hickman, mais ça mérite ni un coup de cœur, ni aussi cher, quoi.
Bah, finalement, ça aurait dû être le Free Comics Book Day, là, à l'époque, sur quatre issues, voilà. On vous l'offre, et puis.
Tiens, j'ai une question, pour vous qui avez lu, du coup, sans spoiler, parce que j'ai pas envie de savoir, et parce que moi aussi, j'ai envie de, j'attends la VF, je lirai pas la VO pour Ultimate Spider-Man. Mais comme vous avez lu Ultimate Spider-Man, et en plus que Spade, tu es à jour sur, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir lu ce Ultimate Invasion pour pouvoir lire les séries qui suivent derrière?
Pour savoir pourquoi Peter a pas ses pouvoirs, oui.
Et c'est indispensable à...
Bah, disons que la manière dont il attrape ses pouvoirs est très liée à une scène qui se passe dans ce comics-là et à un événement qui se passe donc dans Ultimate Universe qui est un one-shot que franchement Panini aurait pu mettre dans l'épisode parce que ça fait le lien en fait avec entre ce prologue et le reste de l'univers Ultimate quoi.
Pour moi, c'est un avis un peu différent de Spade. C'est sans commune mesure avec ce comic, c'est-à-dire que oui, il y a du coup, tiens, qui c'est qui apporte, enfin, comment il a ses pouvoirs. Enfin, il y a quelques personnages qu'on voit ici, qu'on va retrouver, mais qui sont assez secondaires. Pour moi, oui, on peut commencer Ultimate Spider-Man sans savoir ça. Après, il y a quelques personnages, dont ce fameux Captain Britain français. qu'on retrouve aussi un peu dans
pourquoi il lui a foutu le soi-disant c'est le Captain Europe et pourtant il a un truc de l'Union Jack.
Alors ce qu'il dit c'est qu'en fait c'est parce qu'il est Captain Britain parce qu'en fait bon c'est un Français mais que c'est lui qui a les fameux artefacts qui te transforment en Captain Britain.
Une vengeance. Dans ce monde-là, peut-être que les Anglais ont envahi toute l'Europe. Hein.
C'est juste qu'ils dirigent la faction Europe. C'est le dirigeant de la faction Europe, donc il a les pouvoirs.
Et pourquoi il n'y a pas de drapeau européen ? Merde alors.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas de héros, Captain Europe en fait.
Aussi, Sophie, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le nouveau statu quo, il est vraiment assez éloigné de notre monde. C'est-à-dire pour ça qu'il monte les. Il met une carte avec les endroits de pouvoir. Bon, comme d'habitude, l'Afrique est assez mal desservie dans les lieux de pouvoir dans les comics.
Ils en ont vraiment... déjà là. Je me suis dit, ah, ils ont donné à l'Afrique un lieu de pouvoir, c'est bien déjà.
Oui, mais sur l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, ouais, c'est toujours, que des petits points. Mais tout ça pour dire qu'en fait, même le monde en fait qu'il y a derrière et dans sa géopolitique est quand même assez différent du nôtre. Ce qui était justement le contraire de ce qui était proposé dans Ultimate à l'époque. À l'époque d'Ultimate, il y avait beaucoup de gens qui se disaient, mais c'était pas tout à fait ça. Ah putain, ça donnerait ça à des héros Marvel un peu dans un monde plus réaliste, puisque en fait, il y avait des parallèles avec Hydra, forcément, on était dans la période.
Là, d'un côté, Titou, en fait, les factions, ça rappelle en fait les Illuminati de ce monde-là. Et oui, si nous, on avait des Illuminati, ils se partageraient le monde comme dans les Illuminati de l'Ultimate Invasion, quoi. Donc, c'est un côté réaliste. Sur le concept, je trouve que c'est réaliste.
Ah ouais, moi, je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, bon, voilà, le monde est même, je trouve, est différent de notre monde aussi à nous, même dans les religions qu'il y a, puisque vous verrez dans le comics qu'il y a une religion du Hulk.
Ah. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a espèce de... Il y a l'air d'avoir une secte chelou autour de Hulk qui ressemble plus à une espèce de...
De bouddhisme
Hulk, hein, d'ailleurs.
Ça a l'air de bouddhisme à la Hulk, c'est étrange.
Ouais,
à Hulk Zen.
Ça m'a fait plus penser à une secte. En fait, ça m'a fait penser, pour ceux qui ont vu Doctor Who, il y a un épisode de la saison 2, où il y a une espèce de secte chelou qui vénère les loups-garous. Et ils ont tous une gueule, mais on dirait les mêmes, quoi. Ils sont hyper baraques et ils ont le crâne rasé avec une tenue pseudo-bouddhiste, mais en fait, ils ne sont pas du tout bouddhistes, ils sont vénères, les mecs. Et ça m'a fait penser trop grave à ça, quoi. Mais oui, ça peut être intéressant de redessiner le monde, etc. Mais dans ce cas, ça fait plus penser à un univers de fantasy. Et je me dis, lance-toi à fond la caisse là-dedans. Mais je pense que dans un comics, ça va juste être vite fait un truc en fond qui sera
pas
du tout exploité. Et du coup,
pas forcément là-dessus. Faut pas oublier que c'est l'épisodique et que ça, tu peux développer ça très facilement. Surtout que Hickman va chapeauter tous les titres Ultimate pendant un temps.
Ouais, mais je sais pas.
Il y aura peut-être un titre qui sera plus géopolitique en fait. C'est-à-dire que pour le Spider-Man, il y a des basiques qui va se passer à New York, etc. Avec autour de la presse, il y a quand même des basiques. Mais tu vois, sur les futurs titres qui vont sortir, il y aura effectivement peut-être un petit peu plus de géopolitique. Puis après, c'est toujours pareil. On verra jusqu'où des titres sortent.
Hein. Après, Hickman, il a déjà fait un titre fantasy. C'est East of West et je le rappelle que c'était éclaté.
Bon. C'est vrai qu'on avait lu ça.
On avait lu ça et c'était incompréhensible. Donc
je n'ai plus aucun souvenir.
Il y avait Décorum. Je crois que c'est lui qui a fait Décorum. Décorum, c'était nul aussi. Putain. Oh. Après, il y a des fans de Hickman. Je sais qu'il y a une petite pensée à, je sais pas s'il nous écoute, à Zuzman, qui est très 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 fan de Hickman. Bon bah je suis désolé pour toi mon ami Zuzman.
Non mais j'ai fait un peu le contrepoint.
Ouais voilà.
Ça va, merci. On a pas été un massacre en règle.
Sur ce, mes chers amis, on va arrêter de parler de ce comics si désagréable. Non, c'est pas vrai.
Oh, il est pas si désagréable. C'est juste, il sert pas à grand chose, quoi.
Oui, voilà, oui.
Franchement.
Ah, cette jolie plante verte.
On a fait des titres vraiment pire que ça cette saison.
C'est vrai.
Et dans Comics Discovery. Je tiens à le dire.
J'ai préféré lire ça que lire le truc de Vicious Circle. Hein.
Ah oui.
Ou Spider-Man de père en fils qui proposait aussi un nouveau statu quo.
Ah, je sais pas si non, quand même, ouais. C'était mieux que Spider-Man de père en fils. N'en déplaise à Thaïs. Sur ce, on va vous laisser pour l'émission review et on va passer à l'émission news. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je le rappelle, jeudi, sur une notre nouvelle émission autour du manga qui s'appelle Manga Aken. Si vous demandez pourquoi Aken, nous répondons dans l'émission, donc je vous laisserai découvrir dans l'émission pourquoi
ça s'appelle. Ce n'est pas Barbie.
Voilà, et c'est pas des mangas à Ken en trois mots. Ne faites pas cette blague, on l'a déjà faite. Vous pouvez retrouver tous les liens pour aller découvrir ce que fait Sophie, notamment le podcast. Enfin, c'est pas elle qui fait le podcast, mais elle a soumis une de ses nouvelles dans le podcast avant d'aller dormir. Vous trouvez tout ça dans la description. Vous avez tous les liens sur le Linktree de Sophie. Sur ce, on vous laisse, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut rajouter quelque chose.
Si, j'ai eu une réponse de mon mec, il lui lit Ultimate Spider-Man mais n'a pas lu, enfin le dernier Ultimate Spider-Man mais n'a pas lu les ventes, parce que du coup il se méfie des events Marvel, il a arrêté de les lire. Et il disait qu'il n'a pas de mal à comprendre.
Non, t'as pas de mal. C'est juste que t'as une petite précision dans ce comics-là qui t'explique un élément important de Spider-Man, mais tu comprends totalement sans problème.
Faudrait qu'il vienne un de ces quatre discuter avec nous, Steve. Ça, avec un grand plaisir. Je lance l'invitation. Je sais pas s'il nous écoute, mais l'invitation.
Ouais, mais après, je pense qu'en semaine, ce sera compliqué. Tu sais, avec le travail, il se lève tôt.
Ok.
C'est pas grave. Ce sera compliqué.
En tout cas, l'invitation est lancée et ce sera à lui de la relever ou non, simplement. En attendant, on vous laisse, on vous dit passez une bonne semaine. La semaine prochaine, on vous parle de Dark Ride de Joshua Williamson, en espérant que ce soit mieux que ce que j'ai lu de Joshua Williamson. On croise les doigts. Il sort chez Delcourt et on va passer à l'émission news. Allez, bye bye.
Bye bye.
Au revoir tout le monde, bye merci bye. À vous.